La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée à 1968, un événement ancré dans le monde, une promesse révolutionnaire ici à Paris et partout ailleurs. Anti-impérialiste, internationaliste, 68 serait le contraire de la fin du politique. C'est ce que nous dit l'historienne Ludivine Bantini au fil des 450 pages de son livre 1968, De grand soir en petit matin, paru aux éditions du Seuil. Bonjour Ludivine Bantini.
Bonjour et merci beaucoup de votre accueil.
Vous êtes membre de la rédaction de 20e siècle, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Rouen et chercheuse au centre d'histoire de sciences politiques. Votre analyse historique du moment 68 prend le contre-pied de la pensée du philosophe italien Mario Tronti qui définit le relatif échec de 68 comme la fin du politique. Comment pourriez-vous au contraire définir l'événement 68.
Alors l'événement 68, notamment en France, mais bien au-delà bien sûr de la France, en ce qui concerne la France, c'est une grève générale. Donc à partir du moment où il y a une grève générale, il y a un temps en suspens, il y a des lieux qui sont occupés, c'est le politique qui prend le dessus justement. C'est la chose politique, le fait que tout un chacun se sente légitime à parler de sujets politiques. Et donc bien loin en effet de penser que c'est la fin du politique, je pense que c'est une immense ouverture au fait de poser la chose politique comme indépendante des institutions, du pouvoir ou des élections.
Alors pour preuve, les témoignages de celles et ceux qui ont fait 68, vous allez entendre leur voix, chers auditeurs, car nous avons enregistré la séance inaugurale du cycle Mai 68 vue des Suds, un cycle de rencontres et de débats où les militants ont à la fois raconté, questionné, critiqué leur évolution. De l'Amérique latine à l'Asie en passant par les Afriques, tous ont vécu un 68 différent et pourtant, tous ont exprimé un rêve commun, prendre le pouvoir pour changer le monde.
We want the world and we want it.
We want the world and we want it.
Now.
Now.
Alors je vais passer assez rapidement sur mes états d'âme, mais je ne peux pas m'empêcher de vous en faire part très brièvement, parce que je me dis tout à coup, mais pourquoi est-ce que j'ai accepté de venir, étant donné que je me sens toute petite, je vous le dis avec une immense sincérité, je me sens toute petite parce que j'ai reconnu parmi vous énormément de personnalités au sens très fort du terme, au sens historique et politique du terme, et donc moi je n'ai pas du tout eu le bonheur et le courage de vivre ce que vous avez vécu, et donc voilà, je me sens très humble et je sais aussi que je n'aurai rien à vous apprendre, alors j'essaie de m'accrocher à la branche RFI en disant qu'il y a peut-être des auditrices et des auditeurs qui eux glaneront quelques éléments.
Votre émotion, Ludivine Bantini, dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, c'était le 2 mars ce dernier pour l'ouverture de ce cycle de rencontres publiques et de débats autour de 68, vue des Suds, organisé à l'occasion de la 13e semaine anticoloniale et antiraciste par 6 fondations et associations et par le Centre d'histoire sociale du 20e siècle. Alors pourquoi avez-vous tant de fascination pour celles et ceux qui ont fait 68, Ludivine Bantini?
Mais j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'admiration et j'ai l'impression qu'on leur doit beaucoup aujourd'hui parce que ce sont des personnes qui se sont engagées, qui ont donné beaucoup d'elles, qui ont eu ce courage justement de l'internationalisme, de l'anti-impérialisme, qui ont beaucoup voyagé, alors soit d'un point de vue vraiment matériel, soit en pensée par des pratiques très diverses et qui ont réussi à braver un certain ordre, ordre social, ordre moral, ordre aussi un peu trop national, un peu trop étriqué dans ses frontières. Et donc ce sont des personnes qui ont cherché à abattre justement les frontières de manière générale dans ce qu'elles ont évidemment de plus matériel, donc en s'opposant par exemple à l'idée qu'il y aurait des Français et des étrangers, mais avec la volonté de faire de l'événement 68 un moment où tous et toutes peuvent se sentir chez eux là où ils sont, mais aussi les frontières sociales. Ça c'est passionnant en 68, c'est une volonté d'abattre des barrières qui peuvent opposer par exemple les intellectuels et les manuels, la volonté de penser ensemble une vie profondément différente, de changer la vie. Nous voulons le monde et nous le voulons maintenant. Oui, c'est la chanson des Doors qu'on a entendue, mais ça me semble en effet fondamental parce que c'est une conscience du monde fondamentalement, l'idée que le monde n'appartient pas aux puissants.
Et vous êtes moins sensible au fond aux grandes figures iconiques de 68, je pense par exemple à Daniel Cohn-Bendit, internationalement connu, que finalement à tous ces anonymes, à toutes ces actrices, à tous ces acteurs qui sont revenus occuper la Sorbonne pour cette séance inaugurale de ces rencontres autour de 68, tous ces gens qui ont fait 68 au fond et dont on ne connaît pas les noms.
Oui, ça me paraît très important. Alors, de ne pas forcément négliger le rôle qu'a pu tenir un Daniel Cohn-Bendit, par exemple. Et à l'époque, il était d'ailleurs profondément internationaliste et profondément anti-impérialiste. Et il a subi lui-même les affres de la xénophobie, avec un antisémitisme qui s'est cristallisé autour de sa personne et qui a donné lieu en riposte à ce magnifique slogan « Nous sommes tous des juifs allemands ». Mais bien sûr, au-delà de cette figure, il ne s'agit pas de rabattre 68 sur quelques personnalités charismatique et désormais très médiatique, mais plutôt de s'intéresser par exemple aux 10 millions de personnes qui ont participé à ce mouvement dans la grève générale et donc de retrouver en effet les traces de toutes celles et de tous ceux qui y ont participé sans chercher la gloire et sans chercher la lumière des projecteurs.
Alors ce qui est intéressant, c'est de repenser 68 dans le temps long et aussi de changer d'échelle en considérant les mouvements sociaux de la décennie 60 à travers le monde. Et vous écrivez d'ailleurs, Ludivine Bantini, que la dimension internationale du mouvement, c'est un enjeu plus qu'un contexte. Pourquoi ?
Je pense que c'est, il y a cette volonté de faire des solidarités internationales une sorte de boussole, voilà, de se raccrocher à cette idée que partout dans le monde il se passe des choses, mais en outre ce ne sont pas juste des juxtapositions d'événements nationaux, mais qu'il y a une solidarité transnationale véritablement.
Un enjeu donc sur les 5 continents nord-américains, européens, asiatiques, africains et sud-américains.
Le 68 latino-américain, bien sûr, commence avec la Révolution française et se termine avec le coup d'État du Chili.
La voix de Carmen Castillo dans La Marche du Monde, auteure et cinéaste originaire du Chili, où elle est née le 21 mai 1945. Elle a travaillé au secrétariat de Salvador Allende, le premier président socialiste élu en Amérique latine en 1970. Un an après, le coup d'État fomenté par Augusto Pinochet le 11 septembre 1973, son compagnon, Miguel Enriquez, le leader du mouvement révolutionnaire MIR, a été abattu par les militaires dans la maison où il s'était caché. Gravement blessée, Carmen Castillo, alors enceinte, perd son bébé des suites de cette attaque militaro-policière. Mais à la Sorbonne, à Paris, ce n'est pas de sa tragédie personnelle dont elle nous parle, c'est de son rêve collectif.
On vivait dans l'optimisme. Il y avait comme un fond de victoire. Et la lutte armée nous semblait, la lutte armée pour le pouvoir d'État, c'était comme ça qu'on le vivait, qu'on le pensait. Il fallait prendre l'État, donc l'usage de la violence. C'est comme si on pensait qu'à ce moment-là, il fallait forcer l'histoire, sauter par-dessus ces difficultés, cette offensive de l'impérialisme. Donc, je me disais aussi, voilà un temps où le bonheur ne pouvait être que politique. Et collectif. Ce n'était pas un temps où nos questions personnelles, individuelles, nous prenaient toute la tête. On était des sujets, bien sûr, libres, surtout les femmes. Nous prenions du terrain. Au Chili, c'était notoire, l'émancipation des femmes et ce qui importait dans la militance. Mais c'était un temps où tout était relié à la politique, à cet espoir, à cette communauté. Et je voulais aussi dire que nous avions des règles que parler des luttes armées aujourd'hui, quand il y a eu entre nous le terrorisme et toute cette grille de lecture, il est difficile. Mais il faut se souvenir que les luttes armées en ce temps-là, en Amérique latine, avaient des règles très strictes. On ne peut pas donc confondre ces mouvements de libération avec des attentats aveugles. Pour nous, on pouvait attaquer des banques pour se financer, tuer délibérément des civils en pleine rue, c'était impensable, impossible et puni parfois. Même la personne, le militant qui envisageait ça, pouvait être à son tour exécuté.
Viva! Et l'agneau de la solidarité! Viva la solidaridad y la hermandad entre todos los pueblos. Viva la lucha de liberación de los pueblos. Patria o muerte, excelencia.
Janvier 1966, les révolutionnaires du monde entier se sont donné rendez-vous à La Havane. C'est la conférence tricontinentale. Les Angolais, les Vietnamiens et bien sûr les Américains latins se succèdent à la tribune. Le candidat Allende annonce sa victoire prochaine.
La révolution, compañeros, no son partos de todos los días en la historia. Y lo que estamos haciendo nosotros es una auténtica revolución. No solo porque lo que vivimos, lo vemos, lo sentimos, sino porque además...
Le peuple doit comprendre que la révolution ne naît pas tous les jours. Notre révolution est une vraie révolution. Elle n'est pas seulement verbale, on peut la voir tous les jours.
Carmen Castillo.
Il faut se rappeler l'importance qu'a eu pour nous la tricontinentale. Quand la conférence de la tricontinentale en 66 a lieu à La Havane, c'est Salvador Allende lui-même, qui ne peut pas être traité de gauchiste, qui va parler de la nécessité de la lutte armée. Il dit concrètement, notre parti, le Parti socialiste, dans son congrès à Chillán, a repris à son compte cette nouvelle perspective de l'action politique en Amérique latine qui se caractérise fondamentalement comme une lutte pour le pouvoir de caractère armé et continental. La lutte armée en Amérique latine ne fut pas le produit d'un groupe de gauchistes. Elle était incarnée partout. Lors du message du Che, créer 1, 2, 3 Vietnam, la lutte devenait continentale et l'imaginaire de la continentalité de la lutte était pour nous très important. Pour moi, l'année 67 marque un temps où la révolution armée est présente, non pas comme un fantôme, mais comme une ombre réelle, partout en Amérique latine. C'est le moment, comme on disait, où on connecte les luttes. C'est un moment d'énorme solidarité entre tous, puisque nous luttions tous contre un ennemi commun qui était le capital monopoliste américain et les appareils policiers, diplomatiques et culturels. Toutes ces forces de ces expériences de guérilla ne peuvent pas être comprises si on ne les relie pas, donc, à tout le mouvement ouvrier, paysan, étudiant, tout ce continent qui voulait prendre d'assaut le ciel. C'est comme ça qu'on le vivait. Bon, la mort du Che marque une cassure, bien sûr, une mort brutale, précipitée, incroyable. Cette secousse a mis un tremblement dans l'euphorie qu'on vivait. Parce qu'on a beaucoup dit après les défaites que nous étions emportés par le culte à la mort et du sacrifice. Cela n'a jamais été ainsi par tous ceux qui avons vécu les luttes armées en Amérique latine. Ça a été après les défaites que le culte à la mort est venu. Le culte à la mort ne nous faisait pas bouger. C'est une question de la bourgeoisie et pas des révolutionnaires. Les révolutionnaires étaient des rêveurs, des veilleurs. On regardait vers l'avant, on devait être, comme dans ce temps-là aussi, ce qui est frappant, je me disais ces jours-ci, c'est à quel point nous vivions le futur dans le présent. On vivait en anticipation les choses. Et cette anticipation, c'était quoi ? Mais c'était la révolution, puisque la révolution adviendrait à l'échelle de nos vies.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera.
Le peuple uni ne sera jamais vaincu. En 1967, les luttes se connectent en Amérique latine à travers l'OLAS, l'Organisation latino-américaine de solidarité réunie à La Havane, ce qui montre encore une fois le projet d'extension de la révolution cubaine à toute l'Amérique latine, Ludivine Bantini. Un projet révolutionnaire raconté avec une passion incroyablement intacte. Par Carmen Castillo.
Absolument, c'est magnifique ce récit de Carmen Castillo parce qu'on y ressent d'abord la conscience de l'histoire, la conscience de faire l'histoire et de temps qui sont vraiment condensés. Elle dit bien qu'il y avait le futur dans le présent, donc la nécessité de faire histoire et parfois peut-être d'en accélérer le cours par la volonté politique. Et en même temps, il y a des références à l'histoire. Elle mentionne la Révolution française, mais à l'inverse aussi en France, on parle des révolutions notamment latino-américaine ou asiatique. Donc ça, c'est un premier élément qui est très fort dans son propos. Ensuite, il y a l'espérance révolutionnaire, bien évidemment, qui a été si dénigrée alors qu'elle est si importante parce qu'elle donne justement une promesse de changer profondément une société qui apparaît profondément injuste, qui apparaît inégalitaire et oppressive.
Y compris le statut des femmes. Là, on peut être un peu étonné malgré tout parce qu'on n'a pas forcément l'impression que 68 dans le monde, c'est le moment des femmes. Qu'en pensez-vous ?
C'est un moment où les femmes vont d'abord être agissantes, elles vont participer à ces mouvements, qu'il s'agisse des grèves ou de la lutte armée, ça a été très bien montré. Les femmes prennent également les armes, mais elles vont également, au travers de ces expériences, au travers de ces savoir-faire et de ces pratiques concrètes, prendre conscience qu'il faut qu'elles se mobilisent aussi en tant que telles, en tant que femmes, qu'elles réfléchissent à leur place, à la place qu'elles peuvent occuper, à la parole à laquelle elles sont tout à fait légitimes à accéder. Donc 68 va avoir pour effet justement de mobiliser les femmes dans un féminisme qui est lui-même très divers et qui peut être un féminisme dit de lutte de classe, un féminisme anti-impérialiste également, très conscient là aussi des solidarités nécessaires. Et puis la dernière chose qu'on perçoit avec infiniment de force dans le discours de Carmen Castillo, c'est le bonheur, ce qu'elle dit du bonheur. C'est pas du tout l'obsession de la mort, c'est pas une vision qui serait à la fois romantique et morbide, c'est plutôt la joie de l'émancipation collective, la joie de se battre vraiment pour la justice sociale.
Ludivine Bantini, 50 ans après, Carmen Castillo ressent le besoin de préciser la façon dont à l'époque elle envisageait la lutte armée en opposition à une forme de terrorisme aujourd'hui où la rédemption semble exister dans justement sa propre mort.
Bien sûr, alors ce qui est très important dans ce que dit Carmen Castillo, c'est que la violence n'est pas un fétiche, c'est pas un objet en soi, c'est parfois une nécessité parce que quand on pose la question du pouvoir, nécessairement on sait très bien que ce pouvoir lui-même peut être très violent face à la révolte, face à la révolution, et dès lors, elle le dit bien, il y a un sérieux. Il y a une éthique, évidemment, de cet usage politique d'une forme de violence qui est évidemment limitée et qui est concentrée, ciblée profondément à l'égard d'un pouvoir politique qui est lui-même oppressif et répressif.
68, une promesse révolutionnaire, c'est dans la marche du monde et c'est à suivre.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
C'est la suite de la marche du monde sur RFI. Nous revivons ensemble 1968 et sa promesse révolutionnaire. De Paris à Pékin, en passant par Dakar ou San Francisco, toute une génération est appelée à prendre la parole, car les temps sont en train de changer.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing.
Les temps sont en train de changer, l'ordre actuel est en train de disparaître et celui qui est le premier, demain, sera le dernier. Bob Dylan, dès 1964, prophétise l'avènement de la jeunesse et plus largement de tous les opprimés par le capitalisme et l'impérialisme, tandis qu'en France, à la même époque, Antoine, le jeune chanteur aux cheveux longs, dénonce la guerre.
Notre monde entier s'effondre, les spectres sortent de l'ombre, les Indiens se font la guerre, Mahatma n'a pas su faire, la bombe est prête à sauter, le bouton à s'enfoncer, des avions tournent sans cesse, des enfants déformés naissent. Le racisme existe encore, malgré tous ceux qui sont morts. Au nom de la liberté, combien de gens sont tués? Ne voyez-vous pas, mes frères, où se dirige la terre? Les révoltes nous étonnent, mille glas partout résonnent, des cadavres ressuscitent. Partout les regards s'évitent, on arrache les forêts pour y planter des armées.
Des enfants parfois s'élèvent, disant mettez une trêve à ce futur inquiétant, mais leur voix s'envole au vent.
50 ans après les mobilisations émancipatrices des années 60, nous regardons les événements à l'échelle de la planète sur RFI. Je ne sais pas si mai 68 à Paris est l'épicentre historique du mouvement. Notre invitée Ludivine Bantini va pouvoir s'exprimer sur cette question. Mais ce que nous montrent aujourd'hui les archives, qu'elles soient musicales, orales ou écrites, c'est combien la dimension internationale des mouvements politiques, sociaux et culturels de la jeunesse, dite du tiers-monde, était indissociable de ce qui s'est passé ici même à Paris. Et réciproquement.
Tournez la page, l'âge d'or enfin commence. Mais soudain, on nous annonce que quelques nations lointaines s'est réveillée dans la haine, que des peuples se rebellent, qu'il faut qu'on leur soit fidèle. On leur envoie quelques troupes et les partis se regroupent, les alliances se reforment, les beaux sentiments s'endorment.
50 ans après les événements, Ludivine Bantini, non seulement vous replacez 68 dans ses enjeux internationaux, mais surtout vous menez une enquête dans les archives de toute la France, et pour beaucoup inédites, des archives qui nous éclairent du coup sur les acteurs de 68. D'abord, qui sont-ils ?
Alors, ils sont extrêmement divers, et il et elle, parce que bien sûr, il y a des femmes très présentes. On pense bien sûr aux étudiants, mais les étudiants sont finalement une petite minorité. Leur particularité, c'est qu'ils se mobilisent un peu partout dans le monde. Vous le disiez tout à l'heure, de Berkeley à Tokyo, mais aussi de Tunis, Ankara, Téhéran, Dakar, le Cap. Il y a des mobilisations étudiantes également en Afrique du Sud. Il n'en reste pas moins que c'est une petite minorité, mais qui est très tôt rejointe par tout un monde social extrêmement divers lui aussi. Des ouvriers, des ouvrières bien sûr, mais des salariés de manière plus générale, des paysans également qui se mobilisent beaucoup, avec dans tous ces cas la perspective de lutter contre une société trop productiviste, trop centrée sur le profit, sur l'argent, sur la concurrence. Et donc il y a une sorte de point commun là qui se dresse au travers de ce brassage social.
Alors c'est ils et c'est elles partout dans le monde, que veulent-ils ?
Alors il y a une aspiration au changement profond, c'est-à-dire changer la vie avant qu'il s'agisse d'un slogan un peu rabougri, mais c'était quand même d'abord les mots du poète Rimbaud, changer la vie. Il y a une aspiration à travailler à une autre existence plus respectueuse, plus digne, où précisément les frontières seraient mises en cause. Donc notamment, la première des aspirations, c'est à rompre avec une société orientée sur le marché. Vous le disiez tout à l'heure, il y a une alliance entre la lutte contre le capitalisme et la lutte contre les impérialismes, donc contre les interventions militaires que l'on trouve un peu partout. Ce sont des sociétés qui sont en guerre incessante. Et donc, ça explique aussi la chanson d'Antoine, on arrache des forêts pour y planter des armées. Il y a une perspective très antimilitariste également dans 68.
Vous montrez très très bien dans votre livre également, Ludivine Bantini, toutes les dimensions de grève qui précèdent en fait cette grande grève générale du printemps 68, notamment en France. Et vous parlez également des revendications, c'est-à-dire qu'il y a un idéal de vie qui s'exprime, mais il y a aussi très concrètement l'envie de travailler autrement.
Bien sûr, parce qu'on s'aperçoit que les conditions de travail sont très rudes à cette époque, contrairement à ce qu'on imagine souvent en parlant des Trente Glorieuses et d'une prospérité supposée harmonieuse. Nous, on travaille beaucoup dans la société française de l'époque, on travaille 46 à 50 heures par semaine en moyenne pour des salaires qui sont parfois très bas. On travaille dans des conditions qui sont parfois indignes également, et donc ça va être une des revendications formulées dès avant 68. Tout à l'heure, Carmen Castillo évoquait le pivot de l'année 1967. Il y a déjà de très nombreuses mobilisations, des grèves, des occupations, avec cette idée notamment exprimée par les salariés en grève de la Rodia Seta à Besançon, une entreprise de textile. Nous sommes des hommes, pas des robots. Donc c'est l'idée de s'opposer à toutes les formes de mécanique de l'existence, et notamment dans les conditions même du travail.
Donc vous revenez effectivement sur ce concept de 30 glorieuses, en précisant notamment qu'il y a quand même déjà 5 millions de Français sous le seuil de pauvreté à l'époque. Est-ce que cela veut dire, Ludivine Bantini, que vous réfutez l'idée, au fond, cette idée que, par surprise, ce mouvement du 22 mars 68 serait né, mené à l'université de Nanterre par Daniel Cohn-Bendit?
Alors on parle d'événement 68 et on a raison de le faire, parce que dans l'événement, il y a à la fois les conditions matérielles du surgissement, et ces conditions matérielles du surgissement, ce sont toutes ces luttes internationales qui font qu'on a la conscience qu'il se passe quelque chose, et que donc il s'agit aussi d'entrer dans le mouvement. Et donc parmi ces conditions matérielles, il y a de vraies revendications pour améliorer les conditions d'existence. Ça, c'est une chose importante, et d'ailleurs on commence même à parler de crise économique, de sentiment qu'il y a un retournement de la conjoncture économique, que se pose d'ores et déjà la question de l'emploi,
la peur du chômage qui apparaît
en effet, et qu'on voit vraiment dans toutes les archives, qu'il s'agisse des archives des économistes, des milieux patronaux, des milieux gouvernementaux ou encore des syndicats. Mais il y a aussi dans l'événement, ça part d'inédit, ça part de surprise, de surgissement, de ce à quoi on ne pouvait pas s'attendre, et notamment ce qui fait l'événement 68, outre l'importance de la grève et des occupations, c'est aussi le sentiment que des alliances nouvelles s'opèrent à la faveur de l'événement, et que surgissent des projets véritablement alternatifs.
Donc vous soulignez une des spécificités du 68 en France, donc cette alliance entre les étudiants et les ouvriers, et vous signalez également l'absence de violence. Parce que quand on y pense, c'est quand même surprenant. Et on a tous ces images des pavés qui sont balancés dans les rues de Paris, des charges des CRS. Et est-ce que ça, pour vous, en tant qu'historienne, c'est signifiant, le fait que 68 en France, au fond, n'ait pas été si violent ?
Il y a eu une violence... en fait, il y a déjà une violence des rapports sociaux à l'époque. Ça, c'est quand même très important de le noter. Et donc, la violence qui est utilisée, notamment au quartier latin, mais pas seulement, parce qu'encore une fois, aussi bien en Bretagne que en Normandie ou dans la Creuse, on peut parfois utiliser la violence qui est vécue comme une violence plutôt défensive face aux forces de l'ordre. Et ce qui est intéressant dans l'événement même, c'est qu'il s'agit de poser la question de l'ordre
des forces de l'ordre. Enfin, quel est l'ordre que défendent les forces de l'ordre? Donc, du coup, c'est vrai que cette violence existe. Bon, elle n'a rien à voir avec ce qui se passera, par exemple, plus tard en Italie notamment, mais...
Il n'y a pas de mort, je veux dire. Il n'y a pas de mort en France, ou très peu. Il y en a un ou deux.
Il y a plusieurs morts, quand même. Il y a plusieurs morts dont on oublie trop souvent et les noms et les circonstances de leur décès. Il y a des morts, notamment dans certaines entreprises, en grève, par exemple, à Peugeot-Sochaux, en juin 1968. Il y a donc Pierre Bello, Henri Blanchet, qui meurt à Peugeot-Sochaux en juin. Il y a également le lycéen maoïste Gilles Totin, qui meurt noyé, sans doute après avoir été matraqué. Marc Lanvin, qui est un colleur d'affiches du Parti communiste et qui meurt assassiné par un commando vraiment qu'on peut qualifier de fasciste. Mais c'est vrai que ce qui est surprenant, et là vous avez absolument raison de souligner que par rapport à l'ampleur de l'événement, à sa conscience historique, sa force historique, ce n'est pas une tragédie fondamentalement.
Et pourtant, l'un des plus grands témoins français de 68, c'est le philosophe Régis Debray, un acteur, lui, de la lutte armée. Écoutez son témoignage dans La Marche du Monde.
Pourquoi je vais à Cuba en 61, participer à la campagne d'alphabétisation, parce qu'il y avait eu la victoire sur les Américains à la baie des Cochons, parce qu'il y avait un fantastique appel, je dirais, précisément à rompre avec le modèle soviétique, si vous voulez, qui nous semblait déjà à bout de souffle. Et il y avait une aura extraordinaire du personnage de Fidel sur les étudiants français à l'époque, puisque Bernard Kouchner et moi avions été à l'ambassade de Cuba à Paris en avril 61 pour nous inscrire dans ce qu'on voulait ou croyait qu'allaient être des brigades internationales. Donc il faut recontextualiser cela dans la mobilisation de ce qu'était l'Union des étudiants communistes et beaucoup de mouvements qui ne s'appelaient pas encore gauchistes, qui n'avaient rien encore de 68 ans, ce serait un anachronisme, mais qui étaient à la gauche du Parti communiste.
Professeur de philosophie, Régis Debray a 23 ans en 63 lorsqu'il publie un article dans la revue Les Temps Modernes intitulé « Le castrisme ou la longue marche de l'Amérique latine ». Fidel Castro le remarque et l'invite à Cuba. Régis Debray travaille ensuite aux côtés du commandant Ernesto Guevara pour multiplier les foyers de la lutte armée en Amérique latine. Une opération désastreuse dans laquelle le Che trouve la mort en Bolivie en 1967.
Oui, le drame de la Bolivie, c'est pas tellement le choix du pays, c'est le choix à l'intérieur de la Bolivie d'une zone particulièrement ingrate qui n'avait pas été prévue pour cela et qui a été l'objet, je dirais, d'un choix de dernière minute qui n'a pas été heureux. Parce que il y avait deux autres zones dans le nord du pays beaucoup plus propices que j'avais explorées, où la guérilla aurait eu un appui beaucoup plus fort de la part non seulement de paysans installés, mais de mineurs également. Bref, on ne va pas faire toute l'analyse de l'échec bolivien, mais il est certain que l'échec bolivien a marqué, disons, la fin de l'élan de la tricontinentale. Mais vous savez, il y a toujours des rebonds dans l'histoire. Vient ensuite le Nicaragua.
79, oui. La victoire révolutionnaire est peut-être la seule, d'ailleurs.
Oui, puis aussi les luttes au Salvador. Vient aussi la Colombie, puis va venir le Venezuela de Chavez, enfin. C'est-à-dire qu'au fond, il y a eu certainement une défaite politique qui a été transformée en victoire symbolique.
La voix de Régis Debray entre les oreilles de notre invitée historienne, Ludivine Bantigny.
Oui, bien sûr, la trajectoire de Régis Debray à cette époque est une trajectoire révolutionnaire. Et d'ailleurs, il ajuste sa pratique d'existence avec la théorie qu'il déploie notamment dans un texte qui est à l'époque beaucoup discuté un peu partout dans le monde, qui s'appelle « Révolution dans la révolution, lutte armée et lutte politique en Amérique latine ». Et où il pose l'idée qu'il faut se focaliser sur la lutte armée avant toute chose, il faut prendre les armes. Et il y a des discussions très stratégiques, hein, certains considèrent considère que c'est un peu s'éloigner, notamment de l'idée de la lutte de classe, qu'il faut d'abord penser à la lutte de classe, y compris en Bolivie ou à Cuba.
Alors c'est ça qui est très intéressant, Ludivine Bantini, dans votre livre, c'est qu'à la fois vous replacez ces événements de 68 dans une décennie internationale, avec toutes ces luttes, notamment en Amérique latine, mais pas seulement, et qu'en même temps vous dites attention, il faut remettre le politique au centre de ce moment d'histoire et ne pas faire l'économie de repenser ces événements à travers la grille de lecture de la lutte des classes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, en France, on a presque l'impression que la lutte des classes est quelque chose qui n'existerait plus et que vous, vous reconvoquez.
Bien sûr, comment pourrait-il en être autrement dans la mesure où ce mouvement, c'est ce qu'on verra d'ailleurs à Mexico, ou enfin voilà, au Mexique, aussi bien qu'à Prague. Hein, je veux dire, c'est une mobilisation profondément sociale qui est une perspective, dans une perspective de lutte de classe, dans la mesure où les occupations d'usines sont une subversion par rapport à un ordre social qui est dominé par des possédants. Et la question du capitalisme est tellement au cœur de l'événement qu'on ne peut pas en faire l'économie.
Est-ce que c'est ça le trait du Union étudiant-ouvrier?
Absolument.
L'anticapitalisme.
L'anticapitalisme, oui, qui se décline sous différentes formes, parce que cet anticapitalisme, il peut prendre des formes, disons, révolutionnaires, avec l'idée d'abattre ce système, ou des perspectives plus réformistes, d'améliorer peu à peu les conditions de vie à l'intérieur même de ce système, pour in fine le mettre en cause dans ses bases même, dans sa matrice même.
Alors d'après le philosophe italien Mario Tronti, j'y reviens, ce qui a fait défaut aux étudiants et travailleurs unis dans la lutte, c'est un réalisme politique à la hauteur des défis posés par l'État et le capital. Qu'est-ce que vous en pensez au regard des archives de police que vous avez épluchées, Ludivine Bantini? Parce que vous êtes également intéressée à l'autre côté, à la police, au pouvoir et aux oppositions à la contestation.
Oui, alors là où Marion Tronti, me semble-t-il, voit juste, c'est quand il évoque une sorte de lacune stratégique par rapport à la chose politique. Même s'il y a des discussions stratégiques, par exemple, est-il possible de prendre le pouvoir? C'est une question qui reste finalement assez minoritaire. Il y a tout un débat, notamment entre différentes forces politiques, sur la question de savoir si on peut essayer de coordonner tous les comités d'action, les comités de grève, les comités de quartier également, qui sont à l'œuvre un peu partout et qui foisonnent véritablement de projets politiques. Est-ce qu'il s'agit de les coordonner pour faire une sorte de contre-pouvoir, voilà, une sorte de pouvoir face au pouvoir d'État, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt la position des libertaires, est-ce qu'au contraire, il s'agit de leur préserver leur autonomie, leur dimension très locale? Bon, ça, c'est un exemple de la manière dont est posée concrètement cette question du pouvoir, mais somme toute, c'est vrai qu'elle n'est pas abordé de manière frontale, en tout cas en France, à la différence de ce qu'on a pu entendre tout à l'heure au travers du témoignage de Carmen Castillo, notamment en Amérique latine, où là, au travers de la lutte armée, la question du pouvoir est posée de manière beaucoup plus radicale.
Et ce qui est également très intéressant, c'est que ce ne sont pas seulement les États qui ont lutté contre les mouvements de 68, ce sont aussi les partis, par exemple, traditionnels de gauche, ce qui peut être étonnant. Mais pas complètement, puisque c'est la question, par exemple, du parti communiste, Ludivine Bantini. Écoutez le témoignage de Luciana Castellina, femme politique italienne. Elle a été membre du Parti communiste italien, puis de différents partis de refondation du communisme en Italie.
Il ne faut pas oublier que partout, à l'origine de la rébellion, il y a eu la guerre du Vietnam, les mouvements antiracistes aux États-Unis. La révolution cubaine, Che Guevara, est capable d'un défi universel et qui a encouragé les étudiants occidentaux à prendre la parole, à découvrir la politique, parce que ça, c'est un trait très important du 68. Et je crois que la décolonisation avait ouvert de grands espoirs et que c'est plutôt le néocolonialisme qui, exactement dans ces années-là, a démontré que les espoirs que la décolonisation avait ouverts étaient fermés déjà dans une autre forme d'impérialisme. C'est le système en tant que tel qui est mis en discussion. Ça, c'est la question. Les mouvements, précisément car les mouvements ont cette grande qualité qu'ils bougent, ils s'appellent mouvements pour ça, ont des antennes qui manquent aux grandes organisations politiques traditionnelles paralysées par leur obésité. la forte présence communiste dans les usines a porté, a conduit à un affrontement avec le Parti communiste français et le Parti communiste italien, qui est dû à l'arrogant autoréférentialisme selon lequel c'est les partis communistes qui sont la vanguarde, qui sont les seuls autorisés à s'occuper des ouvriers et qui ne reconnaît autre sujet alternatif que les ouvriers. Je crois que le véritable affrontement qu'il y a eu avec ce Parti communiste, c'est l'analyse de ce qui se passe, du temps historique. C'est-à-dire, ils sont encore dans l'horizon des fronts populaires, du compromis démocratique entre démocratie et capitalisme, donc ils sont bornés dans l'idée qu'il y a encore à gagner pour la classe ouvrière à l'intérieur de ce système. Ils ne veulent pas toucher une idée qu'il faut les dépasser. Ils trouvent que ça, c'est imprudent, impossible et irréaliste. Donc, ils sont contre toute politisation des revendications. Revendications syndicales traditionnelles, mais pas plus que ça. Je crois que les partis communistes ont payé lourdement cette incapacité d'analyse parce que finalement, ils ont été de plus en plus dépassés par les nouveautés qui se passaient.
Les partis communistes ont été dépassés par les nouveautés qui se passaient, nous dit Luciana Castellina, députée européenne de 1979 à 1994. Et c'est ce que vous montrez également dans votre livre Ludivine Pantini. Est-ce que cela signifie qu'en 68, les partis perdent le monopole du politique ?
Disons que si on se place d'un point de vue géopolitique, et comme vous nous y invitez, c'est justement à le faire en réfléchissant à la dimension internationale, il est certain qu'il faut avoir à l'esprit la position de Moscou, la position de l'Union soviétique, qui va induire justement la position de certains partis, les partis communistes européens et français, italiens en particulier. C'est-à-dire que Moscou, en fait, ne veut pas d'une révolution en Europe occidentale. Et Moscou voit d'un très mauvais œil les mouvements de subversion qui pourraient d'ailleurs avoir une contagion, comme on le voit très bien à Prague, au cours du printemps 1968. Et dès lors, c'est vrai que la perspective des partis communistes, et notamment du Parti communiste français, c'est plutôt de dire nous allons parvenir à une voie française au socialisme. Ça ne sera pas la voie de Pékin, ça ne sera pas la voie de Cuba, ni d'Alger, ni de Moscou, ça sera la voie française. Et donc, ça sera une forme de réformisme qui passera par des élections. Le Parti communiste croit beaucoup à l'idée qu'il va remporter les élections avec d'autres forces de gauche, avec une perspective d'union de la gauche qui donnera ensuite le programme commun, avec un programme somme toute assez modéré et réformiste, de nationalisation d'entreprises. Le PC parle d'un gouvernement populaire, mais il ne parle jamais de révolution en fait. Je pense que c'est la seule force politique, presque paradoxalement, qui en 1968 ne parle jamais de révolution. Même De Gaulle se dit révolutionnaire à certains égards, il dit mais regardez tout ce que j'ai fait, c'était révolutionnaire, mais le Parti communiste, lui, a renoncé en tout cas à la perspective révolutionnaire et même au terme de la promesse révolutionnaire à cette époque, en effet.
Ça, c'est une dimension effectivement très intéressante de votre livre. Vous citez même les archives des RG, les renseignements généraux français, qui semblent-ils à vous lire, eux aussi à l'époque, croyaient à une possible révolution.
Ah oui, ça m'a vraiment fascinée de voir que partout on parle de révolution, parfois on l'attend et on l'espère, parfois on la redoute, on la craint, mais les polices, et notamment, comme vous le disiez, les renseignements généraux en France, estiment vraiment que là, la situation est révolutionnaire. Ils parlent bel et bien de révolution. Et d'ailleurs, ils n'hésitent pas à citer Castro, ils parlent de Franz Fanon, voilà, dans les luttes aussi anticoloniales. C'est très frappant de voir qu'il y a cette volonté de la part de la police et notamment des services chargés évidemment de surveiller les uns et les autres, tous ceux qui pourraient apparaître comme un danger subversif et révolutionnaire, bah de maîtriser un peu la situation internationale et donc de bien montrer qu'il y a des liens entre ce qu'ils nomment le fanonisme, c'est-à-dire en effet la lutte des peuples pour leur indépendance par rapport aux dominations coloniales, que le castrisme ou le maoïsme.
Alors au fond, que s'est-il passé en 68? Vous reposez la question dans la conclusion de votre livre. Donc moi, je vous repose la question, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous avez réussi à percer ce que vous appelez joliment le mystère 68, vous qui êtes historienne?
Je ne suis pas sûre d'avoir réussi à le faire parce qu'il y a tellement de 1968 au pluriel. C'est une mosaïque, c'est une véritable marqueterie. Et en fait, il y a aussi la singularité des expériences de tout un chacun, de toute une chacune. Donc, mais disons qu'il y a quelques grands traits quand même. On en a beaucoup parlé au cours de l'émission. L'idée quand même d'un espoir de révolution, entendu dans des sens parfois assez différents, mais quand même un espoir de changement vraiment profond, changer la vie, changer les existences dans le sens d'une émancipation. Il y a l'idée aussi tout simplement d'une grève qui pourrait en soi être subversive parce que c'est remettre en cause l'ordre patronal, l'ordre capitaliste, inverser les rôles de domination. Et puis c'est encore une fois s'emparer de la parole. Ça c'est un moment très important, une perspective très importante de 1968, c'est se sentir digne et légitime à prendre la parole, que la parole n'appartient pas aux puissants de ce monde mais qu'elle appartient à toutes et à tous et que l'on peut s'en emparer pour avoir des idées. C'est un des mots d'ordre de 68, ayez des idées, avoir des projets. Et ça, c'est un des aspects très beaux, très forts et dont on porte encore l'héritage, me semble-t-il. Tout à l'heure, il était question de rêve, mais de rêve réaliste, en fait. C'est pas seulement demander l'impossible, mais c'est véritablement une possibilité de changement qui apparaissent non pas lunaire, mais véritablement pratique et possible.
Merci Ludivine Bantigny. Je rappelle votre livre 1968, De grand soir au petit matin. C'est aux éditions du Seuil. Et au son de la voix d'Aretha Franklin, je vous rappelle que le programme du cycle de rencontres et de débats consacré à 68 vue des Suds est à retrouver sur la page de la Marche du Monde sur RFI.fr. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notre page Facebook. Écrivez-nous à l'adresse suivante marche.monde@rfi.fr. Podcastez cette émission signée Valérie Nivelon et réalisée par Elliot Bourrel. C'est la vôtre.